La voix de la crime. Un podcast pour mieux comprendre la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation. Avec la participation d'Ida Chaffaille et Olivier Violo, conseiller référendaire, et de Guillaume Fradin, directeur du service de communication de la Cour de cassation.
Dans ce nouvel épisode de La voix de la crime, nous allons parler de la captation de données informatiques. Une mesure qui peut être prise au cours d'une enquête technique. En effet, tout récemment, le 17 juin 2025, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu une décision importante à ce sujet. Mais avant de nous plonger dans cette affaire, pouvez-vous, Ida et Olivier, expliquer à nos auditeurs en quoi consiste exactement cette mesure d'enquête ?
Le Code de procédure pénale prévoit la possibilité pour les enquêteurs d'avoir recours, avec l'accord de l'autorité judiciaire, à des mesures particulièrement intrusives dans la vie privée, que le législateur a nommées des techniques spéciales d'enquête. Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre que pour des faits d'une gravité certaine, en particulier ceux qui relèvent de la criminalité et de la délinquance organisée. La captation de données informatiques est l'une de ces mesures. L'article 706-102-1 du Code de procédure pénale autorise ainsi les enquêteurs à, je cite, « la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d'accéder en tout lieu à des données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, telles qu'elles sont stockées dans un système informatique, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données, telles qu'il les y introduit par saisie de caractère, ou telles qu'elles sont reçues et émises par des périphériques. »
Pour décrire simplement cette mesure, je dirais qu'il s'agit de pirater un système informatique pour y récupérer, en temps réel, des données à l'insu de son utilisateur. Cette mesure peut porter sur un ordinateur, une tablette numérique, comme sur un téléphone connecté.
Dans le litige que la Cour de cassation a tranché le 17 juin, cette mesure était au cœur des débats. Concrètement, dans cette affaire, comment la captation de données informatiques a-t-elle été décidée et comment a-t-elle été réalisée ?
À la suite d'un renseignement mettant en cause une personne pour un trafic de stupéfiants, les enquêteurs ont mené une enquête et constaté que cette personne avait dépensé en quelques années plusieurs centaines de milliers d'euros dans des jeux en ligne et des tournois de poker, en France et à l'étranger. Une information judiciaire a été ouverte des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et blanchiment de ces infractions. Le juge d'instruction a autorisé les enquêteurs, notamment, à mettre en œuvre une mesure de captation de données informatiques sur le téléphone portable de la personne concernée. Et en exécution de cette autorisation du magistrat, un service spécialisé a alors réussi à introduire dans ce téléphone un keylogger, c'est-à-dire un logiciel espion qui capte les données saisies à l'insu de son utilisateur.
Grâce à elle, pendant 9 mois, les enquêteurs ont intercepté les données de ce téléphone. Sur cette période, l'intéressé s'est déplacé dans divers pays, membres de l'Union européenne ou non, République tchèque, Espagne, Maroc, etc. À l'issue de cette période, et compte tenu des informations récoltées sur le mode de vie de l'intéressé, des perquisitions ont été réalisées et elles ont permis la découverte de produits stupéfiants, d'armes et d'argent. La personne concernée a été interpellée et à l'issue de sa garde à vue, elle a été présentée au juge d'instruction puis mise en examen.
D'accord, mais que contestait cette personne pour que son affaire soit portée devant la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'avocat de l'intéressé a présenté une requête en nullité pour contester la régularité de la captation de données informatiques en faisant valoir que les enquêteurs ne pouvaient pas capter les données du téléphone lorsque celui-ci était localisé à l'étranger sans l'autorisation expresse des États concernés. Cette affaire confrontait donc le principe de souveraineté des États au monde numérique qui se joue des frontières terrestres, ce fameux cyberespace dans lequel les repères juridiques se brouillent puisque la localisation même de la donnée est d'une appréhension difficile.
Pour bien comprendre la difficulté soulevée, nos auditeurs doivent avoir à l'esprit que le principe de souveraineté implique en particulier pour un État le pouvoir de fixer des règles de procédure pénale qui sont applicables sur son territoire. Dès lors, ni le juge d'instruction, ni l'officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire ne sont compétents pour effectuer des investigations sur le territoire d'un État étranger. Leurs prérogatives s'arrêtent aux frontières nationales. Lorsqu'une enquête nécessite d'obtenir des preuves qui se trouvent à l'étranger, comme par exemple une pièce à conviction ou l'audition d'un témoin, ce sont alors les règles de l'entraide internationale qui s'appliquent. Le juge d'instruction ou le procureur de la République doit adresser une demande officielle à l'État concerné, selon des modalités qui sont déterminées par les accords internationaux passés avec cet État, pour lui demander de recueillir et de transmettre les éléments de preuve qui intéressent son affaire. L'exécution de la demande dépend de l'accord de l'État qui est sollicité, et les autorités de cet État s'assurent notamment que les mesures d'enquête sollicitées sont conformes à leur droit national. Le principe est donc que l'exécution d'investigations sur le territoire d'un État étranger nécessite son autorisation. Cependant, une réglementation a simplifié la mise en œuvre de demandes d'investigation entre États qui sont membres de l'Union européenne, afin de faciliter et d'accélérer la menée des enquêtes pénales dans l'espace judiciaire européen. C'est l'expression du principe de confiance mutuelle entre États membres de l'Union européenne.
C'est-à-dire, pouvez-vous nous dire en quoi cette coopération a été simplifiée ?
Je ne pourrais répondre à votre question que de manière incomplète, car le cadre juridique est complexe et la coopération judiciaire européenne se traduit de diverses manières. Je pense notamment au mandat d'arrêt européen, qui permet des interpellations de personnes recherchées dans l'Union européenne. Mais pour en venir au cœur de notre affaire, c'est la directive du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 qui a prévu un instrument de coopération privilégié entre autorités judiciaires des États membres, la décision d'enquête européenne. Il s'agit d'un acte juridique par lequel une autorité judiciaire d'un État membre va demander aux autorités d'un autre État membre la réalisation d'investigations particulières, par exemple des auditions, des interceptions téléphoniques, etc. S'agissant de ces dernières, cette directive a envisagé deux cas de figure pour préserver la souveraineté des États membres de l'Union européenne. Premièrement, lorsque les interceptions de télécommunications ont lieu avec l'assistance technique de l'État membre sur le territoire duquel la mesure est mise en œuvre, les autorités de cet État doivent donner leur autorisation pour permettre la réalisation de ces investigations sur leur territoire. Deuxièmement, et en revanche, lorsque les interceptions ont lieu sans l'assistance technique de cet État, alors l'autorisation de l'État n'est pas requise. Il faut seulement notifier à ces autorités la mesure.
La question de savoir si les autorités de l'État concerné ont apporté leur assistance technique dans l'interception de télécommunications est donc déterminante. Et lorsque la captation de données informatiques consiste à extraire des données de communication, de trafic et de localisation à partir d'un service de communication fondé sur l'Internet, alors il s'agit d'une interception de télécommunication au sens du droit de l'Union. C'est ce qu'a énoncé le 30 avril 2024 la Cour de justice de l'Union européenne en réponse à une question préjudicielle dont elle avait été saisie par une juridiction allemande.
Alors, en résumé, si l'État étranger doit apporter une assistance technique pour que cette captation de données informatiques puisse avoir lieu sur son territoire, il faut qu'il autorise la mise en œuvre de cette mesure. Si au contraire, l'État étranger n'apporte pas son assistance technique, le juge français doit seulement l'informer qu'une captation de données informatiques a eu lieu sur son territoire. C'est bien cela.
Vous avez parfaitement résumé les principes applicables pour les États membres de l'Union européenne. Car il est important de le rappeler, ces principes découlent de la directive sur la décision d'enquête européenne en matière pénale, et ne sont pas applicables hors de l'Union européenne. Il faut alors se référer, comme il vous l'a été précédemment expliqué, aux conventions d'entraide judiciaire entre États. L'enjeu est important, car, pour en revenir à l'affaire aujourd'hui commentée, les données numériques ont été interceptées alors même que le téléphone surveillé n'était plus sur le territoire national, mais à l'étranger, dans des pays de l'Union européenne, comme l'Espagne, mais également dans des pays tiers, comme par exemple le Mexique. Le demandeur à la nullité soutenait que la mesure de captation de données informatiques ne pouvait être mise en œuvre hors du territoire national le temps que le téléphone était à l'étranger. Il faisait valoir que les autorités judiciaires françaises auraient dû obtenir l'accord des États étrangers concernés pour la mise en œuvre de la captation de données sur leur territoire.
La Chambre de l'instruction a écarté ce moyen de nullité, en considérant au contraire qu'aucune autorisation de l'État étranger n'était nécessaire dans la mise en œuvre de cette captation de données informatiques. Pour aboutir à cette conclusion, elle a tenu le raisonnement suivant. Les données issues de la captation de données informatiques ont été obtenues puis exploitées par le service enquêteur directement, sans que les autorités des États étrangers, où a séjourné la personne surveillée, n'aient apporté leur assistance technique. Cette analyse a été approuvée par la chambre criminelle, qui a rejeté le pourvoi de l'intéressé.
Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ?
Bien sûr. La chambre criminelle a retenu trois motifs pour fonder sa décision. D'abord, elle s'en est tenue à la lettre même de l'article 706-102-1 qui autorise le recours à une telle mesure d'enquête. Ce texte prévoit que la mesure de captation de données informatiques permet un accès aux données concernées en tout lieu, alors que d'autres mesures d'enquête, comme la géolocalisation, ne peuvent avoir lieu que sur le territoire national. Le législateur n'a donc pas limité, pour la mesure de captation de données informatiques, l'accès aux seules données captées sur le territoire national. Ensuite, la Cour de cassation a constaté qu'il n'était pas établi que les données captées étaient transmises avec l'assistance technique de l'État étranger, de sorte qu'aucun acte d'investigation nécessitant la coopération de ce dernier n'a eu lieu sur son territoire. Il faut préciser, pour nos auditeurs, que le simple transit de données par le réseau d'un opérateur étranger local ne constitue pas une assistance technique. Cette décision se situe dans le prolongement de décisions rendues en matière d'interception téléphonique effectuées sans assistance technique d'un État étranger. Il s'agit par exemple des décisions rendues par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 28 mars 2017 ou encore le 20 juin 2018. Enfin, la chambre criminelle a constaté que le juge d'instruction avait agi, s'agissant des données interceptées sur le territoire d'autres États membres de l'Union européenne, conformément aux exigences de la directive sur la décision d'enquête européenne que nous avons précédemment évoquée. En effet, en l'espèce, ce magistrat, le juge d'instruction, avait délivré des décisions d'enquête européenne aux États étrangers membres de l'Union européenne, et il avait ainsi porté à leur connaissance la captation des données réalisées.
Il faut donc retenir de cet arrêt que si la mesure de captation de données informatiques est exécutée sur le territoire d'un État étranger sans l'assistance technique de celui-ci, alors il n'est pas nécessaire de recueillir l'assentiment de cet État pour exploiter les données qui en sont issues. Toutefois, s'il s'agit d'États membres de l'Union européenne, la mesure de captation de données informatiques doit être notifié aux autorités judiciaires de cet État membre.
C'est la fin de ce podcast. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Vous pourrez retrouver toutes les références des décisions citées sur le site de la Cour de cassation, rubrique kiosque.
Merci également à l'équipe d'Amicus Radio pour leur soutien technique et leur précieuse assistance.
Nous nous retrouvons à la rentrée pour le prochain podcast de la Chambre criminelle. N'hésitez pas à nous faire part de vos demandes d'explications de jurisprudence en nous adressant un courriel à lavoisdelacrime.cour-de-cassation@justice.fr. Toute l'équipe de La Voix de la Crime vous souhaite d'ici là un très bel été. À bientôt.